prospère du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, nous célébrions la fête de la Toussaint, autrement dit, nous fixions le regard, émerveillé, j'espère, au début de l'heure matinale de là, sur la Jérusalem céleste. Cette cité parfaite, sans ride, ni tache, ni rien de tel, dit saint Paul quelque part, cette cité qui ne compte que des saints, et que les théologiens, pour ce motif, ont qualifié d'église triomphante. Lundi dernier, c'est-à-dire le lendemain, le 2 novembre, la liturgie nous invitait à considérer le purgatoire, ce lieu mystérieux, ou pour mieux dire, cette état, parce que de lieu on ne peut pas vraiment parler, étant donné qu'il n'y a pas de corps lors du purgatoire, mais uniquement des âmes, cet état dont transitoire des âmes de ceux qui meurent en état de grâce, mais imparfaitement saints, doivent y subir une purgation. Bref, il s'agissait de méditer au sujet de cette deuxième composante de l'Église, qu'on appelle l'Église souffrante, et d'intercéder pour elle. Aujourd'hui, l'Évangile entend que nous considérions la dernière fraction de cette même et sainte Église qu'on appelle l'Église militante, à laquelle revient la tâche très délicate, nous en faisons l'expérience tous les jours, d'évoluer au milieu d'un monde qui est fait de clair et d'obscur, qui est inconfortable parce qu'il coexiste le bien et le mal, c'est-à-dire le meilleur et le pire, ou encore ce qui est de Dieu et ce qui n'en est pas, ou ce qui est contre Dieu, tout cela est entremêlé. L'enjeu de la parabole du bon pain et du mauvais pain est de nous instruire sur la conduite que nous autres chrétiens engloutis dans ce monde devons adopter face au mal. Non pas tant face au mal qui est en nous, il faut en être persuadé, la distinction entre le bien et le mal, la frontière entre le bien et le mal, elle passe au beau milieu de chacun de nos êtres, bien sûr. Il ne serait question d'être manichéen, d'être dualiste. Mais c'est dans d'autres textes que le Seigneur Jésus parle du mal qui est en nous-mêmes et nous donne des remèdes pour lutter contre ce mal intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut plutôt nous faire allusion à la conduite que nous devons avoir face au mal qui est chez autrui, à l'extérieur de nous, dans notre frère le plus proche et dans ceux qui sont les plus éloignés. Or, le grand principe qui est dit dans cette parabole du bon grain et du fait n'est autre que le principe de tolérance. Même s'il n'emploie pas le terme, c'est bien de cela qu'il s'agit. Tolérance. Voilà un mot qui sonne étrangement à nos oreilles, qui a aussi mauvaise tête, c'est un certain nombre de conservateurs croyants ou pas, et c'est bien traduit qu'il a le vent chez nos contemporains dans le contexte social où nous vivons. Aussi, pour calmer les ardeurs des uns et des autres, c'est-à-dire les détracteurs inconditionnels de la tolérance et le zèle des béats de la tolérance, je crois qu'il convient de s'arrêter quelques instants sur cette parabole et sur cette tolérance qu'évoque le Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Laissez croire le bon grain et il fait ». Est-ce qu'il convient, comme le font la plupart de nos contemporains, de prétendre que l'appel du Christ à la tolérance revient à laisser penser, dire et faire n'importe quoi à n'importe qui? Ce que bon lui semble à tout moment, évidemment, sans doute, c'est pas le style du Seigneur Jésus, nous sommes trop coutumiers de ses mœurs et de sa sagesse pour douter de pour en douter le Seigneur. Dans les religions très claires, il existe un bien, il existe un mal, les deux sont objectivement identifiables par rapport à un même état qui est la sagesse divine. Et cette règle, qu'on appelle la loi divine, qu'il a inscrite dans toute réalité, où est une âme, ou non pas où est une âme. Ce qui est bien, ce qui est conforme à la sagesse divine, et ce qui est conforme à la loi naturelle, ce qui est mal, c'est l'état d'un règne. Jésus, je le sens dire, jamais la vue, vous connaissez suffisamment, je suis venu utile pour une chose, rendre témoignage à la vérité. Il blâme par ailleurs tous ceux qui s'ingénient à brouiller dans l'esprit d'autrui cette distinction entre le bien et le mal, ce qu'on appelle en théologie le scandale, lorsqu'il dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Il n'est donc pas question de mélanger le bien et le mal, de prétendre qu'il n'existe pas de bien, pas de mal, et donc d'être une tolérance qui relève en fait du tolérantisme. Ces choses sont très claires. Il faut distinguer le bien et le mal. Il y a face à et tolérantisme, si j'ose dire, ces tenants inconditionnels et échevelés de la tolérance, qui n'ont rien compris à la tolérance, une conduite exactement inverse, et chez les croyants et chez les non-croyants, d'une intolérance parfaite. C'est-à-dire qu'il faudrait jeter aux oubliettes cette règle de tolérance que l'on doit appliquer dans la société civile ou dans cette société surnaturelle qui est l'Église. Les deux sont renvoyés dos à dos par l'Évangile, puisqu'il nous faut, comme dit le Seigneur Jésus, le pas prier, le contraint et le fait, tout en défendant l'existence d'un bien et d'un mal objectif. Le chrétien est capable de tolérance, il y a le devoir d'une certaine tolérance dont je vais parler, parce qu'il a en fait, à la différence des défenseurs inconditionnels et des pourfendeurs de la tolérance, trois choses. La première, quant aux origines, c'est que l'être humain, malheureusement, parce qu'il a péché, mangé de ce fruit défendu, n'est pas apte du tout, encore moins qu'avant, à discerner lui-même, par ses propres moyens, entre le bien et le mal. Souvenez-vous, c'était la tentation du serpent, manger de ce fruit, et vous connaissez le bien et le mal. Depuis lors, chaque petit être humain se croira à distinguer par lui-même le bien et le mal. Le malheur, c'est qu'il est advenu exactement l'inverse de la prédiction satanique. L'être humain est aujourd'hui difficilement apte à distinguer le bien et le mal. Première chose. Et le Seigneur Jésus le sait, nous avons du mal à distinguer entre le contraint et l'effet. Et cette parabole n'est pas choisie au hasard, parce qu'il se trouve que lorsqu'on plante en terre le contraint et l'effet, personne n'est capable de savoir où a été planté le contraint ou a été planté l'effet. Et lorsque les deux montent en l'air, on n'est toujours pas capable de distinguer. Vous voyez que le Seigneur choisit cette parabole à bout de pourpoint. La deuxième chose que le chrétien sait, c'est que Dieu, qui est tout puissant et qui aime infiniment sa créature, n'a pas voulu lui-même prier entre le contraint et l'effet d'emblée. Depuis le péché originel et jusqu'à la fin des temps, il subsistera sur cette terre et du contraint est fait parce que Dieu le permet. C'est donc qu'il a un dessein sur l'homme. Il veut que, et l'Évangile en atteste par ailleurs, que l'homme, vivant en présence du mal, soit en quelque sorte poussé à faire le bien. Qu'il accepte d'aller au-delà de ce mal. Il serait trop facile pour la sagesse divine, où il serait néfaste pour l'homme que le mal n'existe à point. Alors je n'entre pas dans ces considérations plus avant, parce que nous passerions quelques journées, voire quelques années à considérer cela, mais tenez-le pour acquis, parce que c'est la doctrine catholique la plus sûre, il vaut mieux qu'existe sur cette terre le mal qu'il n'en existe pas. Je sais bien que tout ça est révoltant aux yeux de la sagesse humaine, mais pourtant nous le savons, c'est l'enseignement de l'Évangile et c'est l'enseignement de l'Église. Et la vie du Seigneur Jésus est là pour en attester. Jésus aurait pu, d'un clignement d'œil, d'un claquement de doigts, faire disparaître le mal, il ne l'a pas fait. Or, il aime infiniment l'homme, il est tout puissant. C'est donc que le mal rentre dans ce plan divin étonnant de progrès de la créature humaine. La troisième chose, c'est que nous devons fermement, et Jésus fait allusion à la fin de son parabole, qu'il existera un jugement. Et que, comme Jésus le dit, il enverra ses anges pour séparer les bons avec les méchants. Et les méchants iront dans le feu éternel, quand les bons iront pour la gloire éternelle en présence de la Trinité sainte. Lorsque nous avons en tête ces trois choses-là, qui sont inaccessibles à la raison naturelle, qu'il y a eu au commencement ce péché originel qui a obscurci notre intelligence, nous rendant incapables presque de discerner le bien et le mal, quand on sait d'autre part que sur ce monde, sur cette terre, Jésus lui met dans la tête, il faut que le mal demeure jusqu'à la fin des temps, et quand on sait d'autre part avec fermeté que le Christ se fera, le jugement s'opérera, et à la fin de chacun jugement particulier, et à la fin des temps, publicité de chacun de ces jugements particuliers au jugement général, alors on comprend comment se comporter avec tolérance, on comprend que l'on peut se comporter avec tolérance, que tout est dans la main de Dieu. La seule chose qu'il nous revient de faire, plutôt que d'essayer de comprendre le bien et le mal, de passer son temps à écouiller notre prochain pour voir ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce que des parents pourraient avoir la tendance de faire, ou des conjoints entre eux, que sais-je encore, on peut mettre ça dans tous les sens et jusque dans les communautés religieuses, croyez-moi, vous le savez, eh bien, plutôt que de passer notre temps à faire cela, gardons toujours en tête que Dieu seul juge, à moi le jugement, dit-il dans l'Ancien Testament. Saint Jean-Baptiste, au début de la vie publique de son cousin, notre Seigneur, dit que c'est lui qui sortira la pelle à vanner et qui se sera le Christ. Il n'est nulle part fait allusion au tri que lui-même, Jean-Baptiste, qui n'est pourtant pas n'importe qui, serait en mesure de faire. C'est le privilège de ce Seigneur, en fait c'est le privilège de la Trinité tout entière, que de faire ceci. Alors, me direz-vous, comment faire? Devons-nous nous résigner au mal? Devons-nous nous taire et gémir? Devons-nous rester béats devant ce mal qui se produit en le laissant proliférer parce que Dieu le veut et que cela permet un surcroît de bien, on ne sait pas trop comment, évidemment. Ce que nous demande le Seigneur Jésus, c'est au milieu de ce monde-là d'être le conférent, d'être le grain de blé, et ce grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. Souvenez-vous de ce que dit Jésus ailleurs, si tu ne meurs pas, tu ne porteras pas de fruit. Il faut donc que nous acceptions d'être en quelque sorte concassés par ce monde. C'est mystérieux, mais c'est nécessaire, mais ce qui n'est pas au-delà du maître, selon des voies qui sont singulières à chacun d'entre nous. Parfois, Dieu veut pour nous le martyr sanglant, parfois il veut le martyr blanc, non sanglant. Quoi qu'il advienne, il faudra un nouveau autre motivation, mais faire. Peut-être que certains d'entre vous savent très bien d'expérience de quoi je parle, peut-être que d'autres ne le savent pas encore, ils le découvriront, chaque chose en son temps. Ce qu'il nous faut, c'est être témoin, par notre conduite, du bien, témoin de cette vérité, au milieu de ce monde où sont mêlés vérité et erreur. Voilà notre seule charge, par notre comportement, témoigner de la vérité. C'est ce que les martyrs ont su faire, leur nom même de martyr, je dirais, témoin, il fait allusion, ils ont, par leur conduite, su contribuer à la conversion de certains mauvais ennemis en bons ennemis. C'est ce que je termine par là, c'est ce à quoi Saint-Augustin fait allusion, par l'alchimie divine, par la grâce divine, il est capable, il est possible que de livrer au contact donc des mauvais qui refusent Dieu, au contact du blé, c'est-à-dire de personnes qui essayent d'appartenir au Christ, parce qu'elles sont baptisées, qu'elles essayent d'entrer dans vie selon l'évangile, il est possible par la grâce de Dieu que le contact entre les deux permette de livrer ce mu progressivement en bon plan. Vous voyez donc que tout n'est pas perdu, loin de là, tout est déjà gagné si nous y prêtons notre concours. Alors, pour les